Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce numéro de l'Auberge espagnole, Marie-Pierre Soriano au micro. Aujourd'hui, nous allons faire la part belle, nous allons donner à entendre nos partenaires du collectif féministe et intersectionnel Nous Toutes 34. Elles ont porté plusieurs actions pour la journée du 25 novembre dernier et dont deux actions phares, une au Kawa Théâtre sur les. Qui était une formation de nous toutes sur les violences sexistes et sexuelles, et celle dont on va parler aujourd'hui avec Clara, qui s'est déroulée au QG le 21 novembre dernier, et qui portait sur son mémoire d'études, mémoire qui s'intéresse au traitement médiatique des transidentités, notamment dans les podcasts natifs. Voilà. Alors c'est Clara qui, bien mieux que moi, va vous en parler tout de suite. Elles ont aussi porté un troisième événement dont nous reparlerons un peu plus tard ici sur Divergence FM et qui a eu lieu autour de leur club de lecture. Voilà, on laisse la parole à Clara. Ton mémoire, il s'intitule Podcast natif, sa spécificité dans le traitement médiatique des transidentités. Alors, comment déjà en es-tu venu à choisir ce sujet de mémoire et explique aux auditeurs et aux auditrices quelle est ta formation.
Du coup, j'ai fait un master de journalisme à Paul Valéry et à l'ESJ Pro, donc c'était un double master. Et donc, en deuxième année de master, on devait faire un mémoire. En lien avec le journalisme, mais on avait vraiment un choix très libre de sujet. Et en fait, c'est un peu avec l'actualité que j'ai pris ma décision, c'est-à-dire que je voyais plein de choses, surtout aux États-Unis, de lois transphobes passer. Et en fait, je me disais, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de traitement médiatique en France par rapport à ça. On n'en parle pas beaucoup. Si on en parle, souvent, on en parle mal, etc. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas travailler autour de cette thématique-là? Et en ce qui concerne le format, parce que bah, en journalisme, on peut bosser sur la presse écrite, la radio, les podcasts, la télé. Moi, j'aime beaucoup la radio et le podcast. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas allier le podcast ou la radio et la thématique dont je veux parler. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas parler du podcast et des transidentités. Aussi parce que moi, je suis partie du constat personnel que les podcasts parlaient mieux de cette thématique-là que les autres médias. Et je me suis dit, bah, est-ce que c'est une question que je me pose? Enfin, je me suis dit, est-ce que c'est vrai ou pas? Et bah, let's go, on va le vérifier et voilà.
Effectivement, on constate que le podcast est quelque chose qui est en train de prendre une ampleur énorme en fait. Et moi, de mon point de vue, je pourrais te donner quelques caractéristiques, mais pas spécifiques, de ce qu'est un podcast. Ce qui m'intéresse que tu nous racontes, c'est comment toi tu le définis, le podcast, du coup, et en quoi. Parce que tu fais aussi de la radio, je le sais. Et du coup, en quoi tu vois une grosse différence entre le podcast et la radio?
Ouais, bah, le podcast, du coup, ça a surtout été développé dans les années 2010 aux États-Unis. Ensuite, ça a été importé en France et ailleurs. Et en fait, ce qui différencie surtout le podcast de la radio, c'est que la radio, c'est des émissions en direct qui sont diffusées sur des ondes, ou alors elles sont enregistrées puis diffusées par la suite. Mais le podcast, enfin, le podcast natif, parce qu'aujourd'hui, on utilise le terme podcast aussi pour désigner des émissions de radio enregistrées puis diffusées plus tard. Le podcast natif, c'est vraiment pensé pour une diffusion différée. Donc, c'est pas la même cible d'auditeurs et d'auditrices, c'est pas la même narration, il y a beaucoup plus de storytelling, beaucoup plus cette notion de communauté, parce que les gens qui écoutent la radio, bah voilà, ça peut être des gens qui l'écoutent dans la voiture et à telle heure, etc. Les gens qui écoutent des podcasts, c'est un rendez-vous, ok, enfin là j'écoute ce podcast parce que j'aime le contenu, et du coup dès que j'ai du temps libre, je vais écouter le contenu. Donc c'est vraiment plus une espèce de lien de fidélité comme une série. Et les différences aussi entre le podcast et la radio, c'est que le podcast, c'est un média qui prend son temps, qui favorise beaucoup le récit intime. Il y a beaucoup de podcasts où c'est une personne qui va livrer son histoire personnelle, ou un échange entre deux personnes qui va aborder des sujets très, encore une fois, personnels ou très intimes, des sujets parfois assez difficiles. Et d'ailleurs, bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais dans mon mémoire, j'avais vu que y a beaucoup, beaucoup de sujets de podcast qui sont des sujets autour du féminisme, des luttes antiracistes, etc. Et qui passent par le récit personnel, en fait, le récit d'expérience, donc comment les gens vivent le sexisme, le racisme. Voilà. Et donc, il y a cette dimension-là qui est très forte et on se sent en tout cas en tant qu'auditeuriste plus proche de la personne qui va parler que lors d'une émission de radio où là, on sent plus la distance journalière.
Sur la manière dont tu as procédé, en fait, j'imagine que il a fallu que tu sélectionnes un nombre de podcasts à étudier, que tu établisses des outils qui te permettraient de faire des mesures, etc. Est-ce que tu veux bien nous expliquer cette étape-là de ton travail ?
Oui, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, quand je parlais de mon parcours, que en fait, mon master à la fac, il s'inscrit dans le département des sciences du langage. Du coup, il fallait qu'il y ait un lien avec les sciences du langage. Donc, la première étape, c'était de sélectionner les podcasts, comme tu l'as dit. Du coup, j'en ai sélectionné 12 de 9 ou 10 podcasts différents, parce qu'il y a deux épisodes, par exemple, qui font partie du même podcast. Enfin, il y a ça plusieurs fois. Et en fait, j'avais sélectionné des podcasts que je n'ai pas utilisés et d'autres que j'ai rajoutés à la fin, donc selon l'état de ma recherche. Du coup, je sélectionnais ça et en parallèle, je commençais aussi ce qu'on appelle l'état de l'art quand on fait un mémoire, donc l'état de la recherche, qu'est-ce qui existe déjà. Ce qui était difficile dès le début, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui existent sur ce sujet, en tout cas pas qui mêlent les podcasts et la transidentité, enfin et le traitement médiatique des transidentités. Les travaux qui existent surtout, en tout cas en français, c'est sur la télévision. Et c'est des travaux qui ont notamment été faits par Karine Espinera. Karine Espinera, c'est une sociologue des médias, qui a beaucoup travaillé là-dessus dans les années 2010. Donc en plus, ces travaux, ils datent un petit peu, parce que depuis les années 2010, en termes de traitement médiatique, il y a quand même une évolution. Mais du coup, je me suis quand même pas mal appuyée sur ces recherches. J'ai pu l'interviewer aussi pour mon mémoire, donc on a fait un entretien. Mmh. C'était super intéressant. Elle a notamment, elle, mis en évidence dans ses travaux que, donc à la télé, dans les années 2010-2015, les personnes trans qui étaient montrées à la télé, c'était surtout des femmes trans et sous un angle très sensationnaliste. Donc c'était, s'il se passait un gros drama, là, on allait en parler. Mais par contre, il n'y avait pas des récits de vie lambda, en fait. C'était toujours vraiment un angle très sensationnaliste et bourré de clichés et avec une vision très binaire des choses. Et donc, elle dit elle-même dans ses travaux que ça s'éloigne totalement de la réalité du terrain, quoi. Donc, il y a ça. J'ai trouvé un mémoire qui parlait de la radio. Enfin, c'était même un mémoire sur les femmes et la radio, je crois. Il y avait une petite partie par rapport au traitement médiatique des transidentités. Et sinon, quelques travaux aussi de mémoire. Donc, c'est la littérature grise. Du coup, c'est pas considéré comme... Enfin, on peut s'appuyer dessus, mais avec des pincettes. Mmh. Parce que ce n'est pas des ouvrages publiés, etc. Donc, ces travaux de recherche, comme le mien. Et donc, donc ça, c'était une difficulté, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait. Et même mes profs me disaient, enfin, mon prof référent me disait que j'allais apporter un truc au monde de la recherche, parce que, de toute façon, ça n'existait pas. Donc, ça, c'était pour la partie état de l'art. Du coup, moi, ça, c'était juste pour faire un petit point sur l'état de la recherche. Après, la partie qu'est-ce que c'est un podcast, ça, c'était plus facile, parce que c'est très documenté. Et donc ensuite, dans mes podcasts, je les ai divisés en sous-catégories parce qu'en fait, il y avait une catégorie qui parlait plus des récits très intimes, une catégorie où c'était vraiment que de la vulgarisation et les gens interviewés parlaient très peu de leur parcours perso, et une autre catégorie qui mêlait les deux. Et en fait, dans cette catégorie-là, il y avait beaucoup plus de podcasts. Du coup, j'en ai un peu déduit que pour vulgariser des choses, parler de soi, des fois, c'est très justement parlant pour les gens qui écoutent. Mmh. Et c'est un bon outil pour expliquer. Et du coup, à partir de ces podcasts-là, ça va être un peu chiant, mais en gros, j'ai pris des trucs de sciences du langage, genre des déictiques temporelles, machin, pour voir qu'est-ce qui était, quel point commun il y avait entre tous les podcasts, quels mots étaient souvent répétés, à quel point les gens parlaient de leur parcours personnel ou pas, s'il y avait des mots plus ou moins positifs ou négatifs par rapport à tel champ lexical, etc. quoi. Donc ça, c'était la partie vraiment science du langage. Et ensuite, il y a aussi une partie analyse de la posture journalistique, oui, qui était super intéressante pour moi. Oui. Et voilà, ensuite, conclusion.
Okay. Il y a deux questions qui semblent importantes, en fait. C'est qui je vais choisir d'inviter, mais d'un point de vue de la parole journalistique, c'est qui pose les questions et d'où pose-t-il les questions, en fait. Est-ce que, maintenant que tu as fini ton mémoire, en fait, qu'est-ce que tu peux dire, en fait ? Est-ce que les meilleurs podcasts, finalement, sont portés et écrits et réalisés par des personnes trans ?
En fait, la plupart des podcasts qui composent mon corpus, c'était beaucoup de personnes cis, mais c'était toujours des personnes... c'était soit des femmes... Soit il y avait aussi des hommes, mais en tout cas, la plupart des hommes du corpus, c'était pas des hommes forcément hétéros. Enfin, il y a quasiment aucun homme cis blanc hétéro qui fait des podcasts là-dessus. parce que voilà, pour des raisons qu'on connaît. Et du coup, en fait, la personne qui hoste le podcast, elle est pas forcément, elle a pas forcément besoin d'être concernée pour faire un bon podcast si elle interviewe des personnes elles-mêmes concernées, quoi. Okay. Donc, par exemple, je sais pas, dans mon corpus, il y a un épisode de La Poudre avec Lorraine Bastide qui interviewe Sam Boursier, qui est un mec trans. Et voilà, en fait, dans plein de podcasts, c'est ça, c'est l'host du podcast interview des personnes concernées. Et du coup, là, on a un récit qui est intéressant parce que forcément, la personne parle de ce qu'elle connaît. Du coup, l'auditeuriste apprend des choses qui sont très concrètes. Et puis, c'est des... En fait, il y a tellement peu de recherches, peu de traitements médiatiques bien faits, peu de recherches scientifiques, etc., sur les... facilement accessibles sur cette thématique-là, que les personnes concernées ont accumulé un savoir super, super développé et énormément, énormément de connaissances, puisque forcément, elles n'avaient pas le choix. Que du coup, quand on parle souvent à une personne trans qui là, va être interviewée dans les podcasts, bah, ces personnes-là ont beaucoup, beaucoup de connaissances et on apprend plein de trucs, quoi. Donc forcément, c'est super utile, ouais.
Si tu dois condenser et résumer le langage qui est utilisé dans les podcasts, en fait, et qui représente bien, du coup, les personnes trans, qu'est-ce que tu peux en dire, globalement ?
Déjà que c'est souvent des tournures inclusives, donc, comme l'écriture inclusive, mais à l'oral, quoi, donc genré féminin / masculin à chaque mot. Et que c'est toujours des mots utilisés par les personnes concernées. Donc, on va pas se dire, les journalistes vont pas dire transsexuel, mais transgenre, vont bien genrer la personne avec le bon prénom. Enfin, en fait, c'est des trucs basiques, mais qu'on voit pas forcément dans les autres médias. Donc, en fait, c'est juste, quand on est un peu informé sur ces questions-là, c'est juste des trucs de base, mais qui sont pas utilisés dans d'autres médias, en fait. Juste assez basiquement.
Tu finis ton mémoire. Et est-ce que se pose à toi la question de la représentativité des personnes trans dans les médias plus classiques, en fait ?
Je me la suis posée pendant le mémoire, parce que quand j'ai fait mon mémoire en février, quand je commençais à travailler, il y a une étude de l'AJL qui est sortie. Donc l'AJL, c'est l'Association des journalistes LGBTI, qui a fait un état de lieu, en fait, de on en est où au niveau du traitement médiatique des transidentités, au niveau de la presse écrite. Et c'était une étude sur 21 médias, je crois. Et en fait, c'était... Alors moi, en lisant l'étude, je m'attendais à pire. En fait, quand tu regardes les chiffres, je crois qu'il y a 55% des articles étudiés qui sont notés comme, je sais plus le terme, mais bon traitement médiatique, quoi. Et en fait, il ne faut pas s'arrêter là à la lecture de l'étude, parce qu'il y a des journalistes qui ont fait cette étude, qui en ont fait partie, qui expliquent que, en fait, les critères, c'était vraiment... Ils étaient assez bas. Et que les 55%, c'est pas c'est super, le traitement est incroyable. C'est les médias ont juste respecté la base du respect de ces personnes-là. Et en fait, il faut encore en faire beaucoup plus. Et après, moi, au niveau des médias plus globaux, il y en a peu, je trouve, qui parlent correctement des transidentités. Et surtout, c'est des médias de niche. Enfin, c'est XY Média, évidemment, des médias tenus par des personnes concernées, et voilà. Mais je sais pas, moi, j'écoute surtout du coup Radio France pour m'informer, en médias un peu mainstream. On n'en parle pas trop. Mais quand on en parle, ça va être un peu, pareil, un peu des trucs sensationnalistes. Mais bon, peut-être un peu moins qu'avant, il y a quand même une amélioration. Mais il y a encore des progrès à faire, je pense.
Et du coup, une des solutions serait de l'inclure à la formation des journalistes.
Ouais, ça, ce serait une très bonne solution. Enfin, je trouve que ce serait super important. Ce serait que tous les journalistes consultent justement les recommandations de l'AJL, puisque c'est fait par des personnes concernées et par les thématiques et par le journalisme. Et en fait, aussi, quand les journalistes font un sujet, ils ont le devoir déontologique de un minimum s'informer sur le sujet. Et donc, ça, c'est ce que Camille Régache disait. Donc, Camille, c'est une journaliste qui fait partie de l'AJL et qui a fait un podcast dont je me suis servie dans mon mémoire. Et j'ai fait un entretien avec elle pendant le mémoire. Elle disait, en fait, c'est une faute déontologique aujourd'hui en tant que journaliste d'utiliser un mot pas daté, transsexuel. Elle prenait ça comme exemple. Ou de mégenrer quelqu'un, etc. Là, je parle juste des journalistes parce que les gens lambda, les gens non journalistes, c'est pas pareil. Mais il y a vraiment ce devoir déontologique-là. Donc, je trouve que juste avoir cette conscience-là en tant que journaliste, ce serait déjà un pas, ça ferait progresser aussi le traitement médiatique, quoi.
Merci, Clara. Laurie et Ise, vous venez tous les deux d'assister à la prestation de Clara qu'on a présentée dans la première partie du reportage. Quelle est votre première impression à la sortie de la conférence?
Moi, ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses qui étaient déjà mises en place par rapport au fait dans les médias, comment inclure et comment parler des transidentités de manière, en tout cas, plus safe. Ça m'a beaucoup apporté, puisque je pense que je ne savais pas du tout qu'il y avait autant de choses déjà un petit peu mises en place.
Oui, moi, j'ai trouvé Clara très pédagogue, surtout, parce que c'est des sujets qui sont justement assez mal représentés dans les médias et même si c'est un public qui était quand même assez averti, c'est important d'avoir cette pédagogie aussi sur un sujet comme ça.
Alors, on ne va pas faire d'agisme, hein, parce que je sais qu'il ne faut pas en faire, parce que moi aussi, j'essaye de déconstruire. Ceci dit, il a aussi été question de podcast natif aujourd'hui. Nous, on fait de la radio, par exemple. Donc, les podcasts que l'on met sur notre site internet ne sont pas des podcasts natifs, mais ce sont juste des boutons de replay, en fait, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et moi, je crois fermement qu'il y a quelque chose de l'ordre, en tout cas pour votre génération à vous, de l'apprentissage du pair à pair, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe un peu à côté de la problématique du grand public, mais effectivement, on est sur des publics de niche, de gens concernés plus ou moins près, et sur de la transmission par témoignage. Est-ce que c'est ça que vous avez retenu aussi ce soir?
Attendez, je réfléchis à la réponse, parce que...
On en a parlé, effectivement, et c'était un sujet qui était assez intéressant. C'est sûr que, effectivement, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai bien retenu suite à cette présentation. Et je pense que ça demande encore beaucoup de réflexion, encore beaucoup de questionnements là-dessus. Comment inclure un peu plus l'image des transidentités et les parcours de la manière la plus adaptée pour que ce soit accessible à tous.
C'est encore des questions de formation, probablement. Enfin, former les journalistes en devenir, c'est-à-dire les journalistes grand public, on va dire, entre guillemets, sur qu'est-ce que c'est l'inclusion. Mais à ce moment-là, c'est toutes les inclusions aussi.
Oui, c'est sûr.
Oui, d'ailleurs, Clara nous a parlé d'une charte de l'AJL, je crois. Qu'est-ce que c'était? Je me souviens plus de
justement, c'était l'outil qui est utilisé. Donc, c'est un outil qui permet, en fait... Donc c'est une charte, mais c'est vraiment un outil informatif sur comment parler des transidentités de la manière la plus adaptée possible, respecter les termes, respecter aussi les personnes en question. Enfin, il y avait beaucoup d'aspects en fait expliqués là-dedans, et du coup c'est ça que moi j'avais en tout cas retenu.
Et c'est ce qui peut permettre aussi à un public qui n'est pas informé de s'informer, surtout dans des médias mainstream. Parce que ça s'adresse justement à un public qui n'est pas forcément concerné et pas forcément alerte sur des sujets comme ça. Et c'est super important qu'il y ait autant de médias qui s'engagent là-dedans et qui s'engagent à respecter tout ça.
Vous auriez envie de dire une dernière chose?
Bravo à Clara, franchement, parce que c'est pas facile de faire, de présenter comme ça devant plein de gens. Et puis voilà, elle a assuré, clairement.
Moi aussi j'ai vraiment aimé et j'ai trouvé ça hyper fluide, c'était très facile à comprendre, c'était vraiment très accessible et c'était, je pense que c'était bien quoi, c'est vraiment cool.
Merci à tous les deux. Clémence, bonjour, tu viens d'assister à l'intervention de Clara, qui est membre du collectif Nous Toutes 34. Elle a fait, on l'a vu dans la première partie du reportage, elle a donc présenté son mémoire d'études qui parle notamment de la place médiatique des transidentités, en fait, et notamment dans le podcast Nastif. Qu'est-ce que tu as pensé de son intervention?
C'était super intéressant de traiter de la transidentité en l'analysant sur la manière dont c'est parlé dans les médias. C'était super intéressant. L'entrée podcast était aussi super intéressante, de faire la distinction entre podcast natif et plutôt des sortes de replays qui sont confondus avec les podcasts maintenant. Ce dont on a parlé, moi, qui m'a marqué, c'est vraiment l'idée que les podcasts natifs traitent mieux des transidentités. Mais la problématique qu'on a soulevée, enfin le paradoxe, c'est que les podcasts natifs, ils sont faits par des personnes qui sont sensibilisées et écoutés par des personnes qui sont déjà sensibilisées, entre guillemets. Du coup, c'est super intéressant qu'ils soient quali, entre guillemets, mais on va perdre tout un pan qui est de sensibiliser des gens, vulgariser pour des gens qu'on pourrait toucher dans des médias plus mainstream sur lesquels on tombe par hasard. Là, on tombe pas par hasard sur un podcast natif. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant, ce distinguo-là que j'avais pas en tête, moi.
Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette soirée ?
Moi, je fréquente souvent le Quartier Généreux. Je suis bénévole au Quartier Généreux et c'est trop bien qu'on ait des soirées comme ça sur plein de thèmes. Et du coup, moi, je suis déjà un peu sensibilisée au sujet queer, on va dire, au sens large. Et du coup, je me suis dit, je vais tenir le bar à ce moment-là parce que je sais que j'ai encore beaucoup de travail, de compréhension à faire sur ces sujets. Et du coup, ça a rempli pour moi la mission parce que j'ai appris plein de trucs. Et il y avait plein de gens aussi. On a eu une longue discussion autour du travail de Clara. Et du coup, on part tous un peu avec notre parcours différent. Et du coup, d'être dans une soirée, on peut échanger en petit comité, c'était super intéressant.
Tu parles de compréhension sur le sujet. Est-ce que toi aussi, tu parlerais finalement de déconstruction, en fait ?
Bien sûr. Oui, moi, j'ai encore du travail à faire de déconstruction. Évidemment que j'ai fait un petit pas où le béaba d'essayer de ne pas mégenrer les gens, les trucs de base, on va dire que j'ai fait un petit parcours. Mais de comprendre les parcours, comprendre les difficultés que c'est d'avoir un parcours de transition que moi, je ne vis pas. En fait, il faut écouter ces personnes-là, leur donner la parole et leur parler dans la vraie vie aussi, pas que via des podcasts. Et cette soirée a permis ça, donc c'est trop bien.
Merci. Merci beaucoup.
Avec plaisir.